Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Ah, il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Il est 20h et vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit dans l'after comme chaque soir, bien entendu au programme de ces deux premières heures. C'est maintenant officiel, Alexis Sanchez s'est engagé avec l'OM, les premiers mots du Chilien à Marseille, les explications de Pablo Longoria en conf de presse à écouter dans quelques instants, avec cette question suggérée par les propos du président de Marseille aujourd'hui, avec Alexis Sanchez, l'OM change-t-il de dimension? On vous attend au 32-16 pour y répondre. Olivier Létang était l'invité de BFM Lille aujourd'hui, notre Jean Baumel y était et Létang a fait le point sur le mercato du LOS. Qui supporte Lillois. Comment appréhendez-vous cette saison? Qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Il y en a parlé des objectifs, notamment aussi Olivier Létang. Monaco qui a été sorti hier en tour préliminaire de Ligue des Champions. Est-on trop gentil avec Monaco? C'est ce que pense et nous dira Walid Acherchour. Et pourquoi, selon vous, les clubs français galèrent-ils autant en tour préliminaire de Ligue des Champions? On vous attend au 32-16 pour y répondre. Avec nous ce soir, Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
Jonathan Macardy également est avec nous. Salut Jonathan.
Salut tout le monde.
Et Gilbert Bribois également est là.
Salut,
qui prendra le relais à 22h. Salut Gilbert.
Ça va?
Et toi alors?
Bah nickel.
Et t'as revenu de vacances?
Bah nous on est là depuis 10 jours, hein. C'est toi qui débarques. Hein. 3 mois de vacances, Villas.
Ouais, complètement.
Le mec, non mais c'est un truc de fou.
Ah non, deux mois, déjà pas.
T'abuses, Nico.
Ouais, mais j'ai fait n'importe quoi avec mon planning l'année dernière. C'est sur les vacances. Là.
Ouais.
Du coup, j'ai dû rattraper en juin et enfin bref.
T'as pas manqué un peu les émissions, le foot?
Bah écoute, j'ai mangé du local.
Ouais.
Un petit tour à Setúbal, stade de Bonfim, avenue José Mourinho, du côté de Setúbal. Stade Valcel, chez Vicente, j'ai payé mes cotisations de sociaux.
Il s'est
mon devoir, quoi.
T'es régalé.
Ouais, j'ai mangé du local, encore une fois. Okay. On aura quoi à partir de 22h, mon cher Gilbert?
On aura Stéphane Guy et Kevin Diaz, lui aussi de retour. Voilà. Alors Stéphane Guy n'est pas content.
Ah
oui? Oui, parce qu'il estime que Monaco
parce qu'il y a
hier.
Kevin Diaz avec lui.
Non. Parce qu'il estime qu'en fait Philippe Clément est responsable de l'élimination de Monaco hier. Il vous expliquera pourquoi tout à l'heure. Kevin Diaz, lui, veut revenir également sur la folie marseillaise avec l'arrivée d'Alexis Sanchez. Je sais que vous allez en parler, mais l'avis de Kevin, il sera forcément mieux. Et puis à 23h, analyse du match Real-Francfort. Polo.
Oui.
Lundi.
Ah oui, c'est sûr, je vous l'avais dit.
Polo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué que pour lui, le système des chaussures en Espagne, c'est un truc totalement bidon, en fait, qui n'avait aucun sens et que de toute façon, c'est hypocrite et tout. Et bien, il y a des sociaux du Barça qui ont appelé, qui veulent avoir la réponse.
Oh là là.
Et bien, ce sera ce soir.
C'est bon, ça.
Il y aura ce Polo. Ce sera ce soir. Il y aura Polo, bien sûr.
Oh là 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 là.
Et donc, on va faire les bases. Est-ce que finalement, le système des sociaux en Espagne a toujours un intérêt?
Alors, je suis pas loin d'être d'accord avec Polo, mais je suis pas sûr que le Barça soit le meilleur exemple pour illustrer son propos.
Ah, parce qu'il est. Attention, il était très
chaud. Non, mais parce qu'en Espagne, le Real et le Barça sont vraiment des associations, alors que par exemple, le modèle des sociaux au Portugal, t'as l'association qui cohabite avec la société anonyme sportive. Et c'est la société anonyme sportive.
Donc c'est au Portugal que c'est une arnaque.
Au Portugal, ça l'est, ouais, il y a une vraie hypocrisie. D'ailleurs, souvent, il y a scission entre l'association et la société. Mais
donc
c'est pas le cas du Barça et du Real.
Barça, mais en fait, c'est juste c'est du flanc, quoi.
Moi, je suis socio du Gil Vicente, mais là, c'est différent, statut juridique différent, puisque le seul actionnaire de la société sportive.
C'est toi.
Non, c'est l'association, justement. Enfin bref,
vous m'avez perdu, là.
Ouais, mais c'est normal, ça m'étonne pas.
Mais il était très chaud la dernière fois, Polo.
Il est chaud, Polo, globalement.
Ça promet un débat.
Ça fait une quarantaine d'années, il est chaud bouillant.
S'il y a action-réaction, ça peut être. Ouais,
donc, ce sera tout à l'heure.
Merci beaucoup, Gilbert. Puis tu l'as dit, il a la Super Coupe d'Europe, bien sûr, ce soir, à partir de 21h. Real Madrid face à l'Eintracht Francfort, ce sera avec Clément Brossard, bien entendu. Et aussi le meeting de Monaco de l'athlétisme, on suivra ça avec Samir Hammoudi. Mais avant cela, Marseille était en feu hier soir pour accueillir Alexis Sanchez à Marignane. La signature du joueur a été officialisée aujourd'hui par l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé pour un an, avec un an en option. Voilà, c'est ce qui a été expliqué d'ailleurs aujourd'hui par Pablo Longoria, l'international chilien de 33 ans, qui a été présenté à la presse dans la foulée. Tiens, on va l'écouter, Pablo Longoria, sur Alexis Sanchez. Et vous allez l'écouter, pour lui, l'allu chilien, il incarne beaucoup de choses.
Il incarne un joueur qui peut jouer dans des différentes positions offensives avec le système actuel du coach, mais surtout un joueur qui nous permet d'avoir un saut de niveau. Changer un peu la dimension à l'intérieur de l'effectif pour être plus compétitif. On a dit depuis le premier jour, l'objectif pendant cette saison, c'était d'être plus compétitif encore et d'améliorer l'effectif. Je crois qu'avec le cas d'Alexis Sanchez, ça c'est le cas.
Voilà, Alexis Sanchez. Avec Alexis Sanchez, est-ce que l'OM change de dimension au niveau de son effectif? Supporter de l'OM, on vous attend au 32-16. En tout cas, c'est ce que laisse entendre, parce que ce que dit d'ailleurs très clairement le président de l'OM, Pablo Longoria. Vous en pensez quoi d'ailleurs de ça pour commencer? On va l'écouter, Alexis Sanchez, dans quelques instants également.
Non, mais au-delà de changer de dimension, c'est surtout un gros coup de projecteur. On a vu de très belles images hier. C'est un joueur qui, il y a 3-4 ans, et avait le meilleur salaire de Première Ligue à Manchester United. Même si sportivement il est un peu sur le déclin, ça reste un joueur qui l'année dernière était titulaire à Anfield contre Liverpool avec l'Inter Milan. C'est un joueur qui avec le Chili est encore un leader, qui a eu beaucoup d'expérience et qui a gagné beaucoup de choses. Et Longoria le disait en conférence de presse, il a gagné partout où il est passé. Et donc pour un effectif comme l'Olympique de Marseille, bien entendu que ça rehausse plein de choses, tant dans ce qui va se passer dans le vestiaire ou sur le terrain. C'est vrai que c'est un sacré saut qualitatif, même si il y a toujours le bémol par rapport à son état physique et s'il peut enchaîner. Mais bien entendu que voir Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille, je pense que pour la Ligue 1, c'est quand même quelque chose de pas mal.
Je me demande pourquoi il y a ces questions sur sa capacité à enchaîner les matchs, dans la mesure où l'année dernière, à chaque fois que l'Inter l'a sollicité, il était là, et que lui, justement, réclamait plus de temps de jeu.
Oui, mais
et
sur des cas précis.
C'était une question de choix de la part de l'entraîneur.
Il y avait de la doublette.
Il y avait beaucoup de concurrence, mais le joueur était apte à jouer à chaque fois. Alors oui, après, il n'a pas les cannes qu'il avait il y a 20 ans, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que c'est un joueur qui a montré qu'il est avant tout professionnel, c'est quelqu'un de très sérieux. Et pour moi, il n'y a pas un historique qui est inquiétant quant à son état physique. Après, est-ce que ça sera un joueur qui vient pour jouer l'intégralité des matchs de l'OM? Je ne pense pas. Et puis de toute manière, il va y avoir une rotation. L'effectif est largement fourni dans le secteur offensif. Si tu me dis, en partant de cette hypothèse dramatique, alarmiste et des rabat-joie et des peines à jouir, qu'il n'est pas capable d'enchaîner, pourquoi pas? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas, mais on va leur donner raison pour ce soir et l'avenir
le pourra.
Mais si on se dit que Payet et Sanchez se partage le poste sur la saison, je suis désolé, c'est une superbe nouvelle. Et le fait que ce joueur-là, ce joueur de cette qualité-là arrive, je me demande pourquoi il y en a qui font les peines à jouer. Encore une fois, alors, quand c'est Messi ou Ramos totalement cramé qui arrive au PSG, les gens disent c'est génial, c'est le ruissellement positif du PSG sur la Ligue 1.
Quand Ramos arrive au PSG, il y a beaucoup de doutes.
La vie générale, c'est quand des joueurs en fin de carrière comme Messi ou Ramos arrivent au PSG, c'est génial. Là, on a un mec qui a été capable de jouer à chaque fois qu'on a fait appel à lui à l'Inter et qui s'en va justement parce qu'il veut plus de temps de jeu, c'est une excellente nouvelle et du même calibre.
Tiens, on va l'écouter justement, Alexis Sanchez, sur sa condition physique, puisque la question lui a été posée. Il y en a certains qui se posent des questions à savoir comment il sent. Voilà ce qu'il répond en conf de presse aujourd'hui.
Physiquement, je me sens bien. Je me suis entraîné en Italie avec l'Inter. Il reste quelques petits détails à régler, notamment toucher un peu plus le ballon et trouver du rythme. Je suis très content de ce qui s'est passé hier, de cet accueil. J'espère pouvoir leur rendre tout ça sur le terrain.
Voilà, il se sent bien, dit.
Oui, non, mais après,
au contraire aussi, tu
vois. En fait, le problème, pour revenir sur ce que disait Jonathan, c'est que moi, je suis globalement d'accord avec lui, mais tu forces un peu trop sur les comparaisons, parce que je suis désolé, mais l'année dernière, quand Boateng arrive à Lyon, allait demander à Florent Gautreau, on s'était écharpé à son arrivée, on parlait de son état physique alors qu'il avait fait 30 matchs avec le Bayern Munich. À l'époque, on se rappelle de Schneider. À chaque fois qu'un joueur aussi
renom, tu veux dire,
voilà, un joueur de renom arrive un peu cabossé par les dernières années.
Cabossé en Ligue 1.
Non, mais aujourd'hui, Alexis Sanchez,
moi, c'est 9 titres la saison dernière, c'est 15 et 16 les deux précédents.
C'est des choix.
Non, mais, c'est beaucoup de problèmes physiques aussi.
Si le mec était excellent, si le mec était à chaque fois extraordinaire, il serait passé devant Dzeko quand Dzeko il avait eu une période de moins bien. Lautaro Martinez, il a eu aussi une période de moins bien. Donc si l'Inter le lâche aujourd'hui et résilie son contrat, c'est pas parce qu'il est extraordinaire, sinon à 33 ans, il l'aurait gardé dans l'effectif.
Il l'aurait résilié parce qu'ils ont des besoins, aussi de sa libération salaire aussi.
Parce qu'il coûte très cher par rapport aussi à ce qu'il peut donner à l'Inter Milan. Donc moi, je suis d'accord avec toi de base, mais qu'on ait quelques doutes sur sa capacité à jouer 38 matchs, parce que quand Longoria nous le présente aujourd'hui en conférence de presse, on a l'impression quand même, quand il parle de changement de dimension, que ça va être le top player de cette équipe là que le
toi t'as des doutes là-dessus?
Non, je me pose malheureusement l'année dernière, je dis, il a eu un bon passage avec l'Inter, il a été titulaire contre Anfield où il a fait un très bon match. match, même si au passage c'est lui qui coûte un peu l'élimination parce qu'il prend un rouge en 20 secondes vraiment de façon stupide à la 60e minute. Moi, ce joueur là c'est un joueur que j'ai toujours aimé, apprécié par rapport à ses capacités, par rapport à ses qualités. Mais quand tu fais que 9 titularisations et que tu as eu à Manchester United et à l'Inter Milan, ça fait quand même 3 saisons que t'as pas fait des saisons titulaires et pleines, bah on peut se poser un petit peu la... on peut, en tout cas dans l'analyse globale, on peut être d'accord avec Jonathan et mettre un petit astérisque en disant attention.
Depuis la saison 2019-2020, et là il a une grosse blessure qui contracte à l'hiver, il a sa blessure au tendon du péroné, où il loupe effectivement une dizaine de matchs. C'est juste 2 matchs manqués par-ci par-là.
Par-ci par-là.
C'est-à-dire qu'en gros, en 3 ans, il a loupé 3
matchs. Mais regarde, il le dit même aujourd'hui.
12 matchs.
Il le dit même aujourd'hui.
14 matchs, c'est rien.
Jonathan, il le dit lui-même en conf, en termes de rythme, il n'est pas là. Et surtout, voit les titus. Parce que l'année dernière, il fait 39 apparitions, mais il a 9 titularisations.
Exactement.
Il y a ça aussi.
Et je continue de vous dire que c'est des choix.
Mais il y avait de la concurrence. Hein. Johan nous l'a très bien expliqué.
Mais quand on dit ça, on n'est pas rabat-joie.
Je te le dis.
Sincèrement, on peut dire que c'est une super nouvelle parce que moi, si on m'avait dit en début de mercato qu'Alexis Sanchez allait arriver à Marseille, j'aurais pas cru une seconde. Et j'étais le premier à être un peu inquiet ici sur cette antenne. Donc, on va être cohérent par rapport à ça. Maintenant, on n'est pas obligé non plus de sauter au plafond en disant c'est Alexis Sanchez qui a 29 ans, qui sort d'Arsenal ou qui sort du Barça. C'est aussi un Alexis Sanchez qui est cabossé physiquement et qui doit prouver aussi qu'il est capable à 33 ans de faire une saison pleine en Ligue 1.
Malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu, il a encore des stats plus qu'honorables.
Il
est encore performant. Je veux insister là-dessus, désolé d'être pénible, Walim, mais quand tu dis cabossé physiquement, c'est inexact, c'est faux. Il est vieillissant.
Cabossé physiquement, ça veut dire aujourd'hui.
C'est pas un joueur qui accumule les blessures.
Aujourd'hui, sur les 3 dernières années, il n'a pas fait de saison pleine titulaire. Mais il n'est pas parti dans un squad en disant Alexis Sanchez, tu seras notre titulaire.
Walid, les mots ont un sens et c'est important de les respecter. Quand tu dis cabossé physiquement, c'est inexact.
Okay, on peut changer.
Qu'il soit moins performant que ce qu'il a été lorsqu'il était en Angleterre, évidemment. Et ça fait que lorsqu'il est dans ces clubs-là, à Manchester, à l'Inter, il n'est pas le premier choix de son entraîneur. Il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, il était disponible.
On peut changer. Alors je vais changer et je vais dire que sur les 3 dernières saison, on n'a pas eu de Alex Sanchez titulaire dans un club avec une saison pleine.
Voilà,
je m'excuse, Jonathan, mais pour moi, ça ne change pas non plus le.
Bah si, parce que quand tu es à l'Olympique de Marseille, c'est quand même différent que d'être à Manchester United ou à l'Inter.
Oui.
Si l'entraîneur veut te faire jouer tous les matchs, il va te faire jouer tous les matchs.
Supporters de l'OM, on vous attend au 32-16. Est-ce que selon vous, avec Alexis Sanchez, l'OM change de dimension, comme l'a dit Pablo Longoria? On aura Vincent dans quelques instants qui nous a appelé au 32-16. Vous allez voir qu'il n'est pas forcément très emballé par l'arrivée d'Alexis Sanchez, pas plus convaincu que ça. On vous attend au 32-16 pour y revenir. Puis on écoutera encore Alexis Sanchez avec une petite déclat d'ailleurs où il parle de l'OM qui a fait beaucoup parler. Voilà, où il dit on m'a dit que l'OM était un grand club. Le on m'a dit, il a fait un gros buzz sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. On m'a dit que. Et puis on écoutera également Pablo Longoria qui évoque les conséquences éventuelles avec cette arrivée d'Alexis Sanchez et notamment les éventuels départs à venir, notamment dans le secteur offensif. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
20h14, vous êtes sur RMC dans l'After. On est avec Jonathan Macardy, avec Walid Acherchour. Aujourd'hui, Alexis Sanchez a donné sa première conférence de presse en tant que joueur de l'Olympique de Marseille. Alors, vous n'êtes pas forcément d'accord d'ailleurs hein, sur l'apport et notamment la condition physique du Chilien, Walid et Jonathan. Et on a Vincent.
Au final, on est d'accord.
Au final, mais de toute façon, c'est ça.
Une question de mots. On s'est bien rapproché. On s'est tendu la main. C'est pas un bisou à la pause.
Arrêtez-vous là. C'est une question de sémantique.
C'est jaloux.
Complètement.
Tout est toujours question de sémantique.
Ouais, exactement. Vincent, supporter de l'OM, nous a appelé au 32. Salut Vincent.
Bonsoir à tous, bonsoir l'équipe.
Salut Vincent. Alors Vincent, je crois que t'es pas plus convaincu que ça par l'arrivée d'Alexis Sanchez.
Disons que si on me dit Alexis Sanchez de Manchester et encore de Arsenal, pourquoi pas, je veux bien. Mais là, on parle d'un mec de 33 ans, bientôt 34, qui a été libéré par son club. Si on parle d'un top player, ça s'achète cher, ça s'achète avec une condition physique. Les matchs de préparation, je l'ai pas vu jouer.
Il a pas joué en prépa.
Voilà, merci. Donc ça va, mes sources sont plutôt bonnes. Et au final, il y a aucune garantie quoi. Donc si c'est pour nous faire venir un joueur qui va prendre la place d'un mec qui est déjà en place depuis un an ou deux ans.
Comme qui?
Et au final, qui va nous faire des cagades.
Comme qui?
C'est pas fou, quoi. Moi, j'aime bien le joueur qu'il était, notamment au Barça. Il a fait des trucs extraordinaires. Mais est-ce que ça peut encore dynamiser le jeu de l'équipe? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres choses à aller chercher, notamment en pointe, pour mettre
qui tirer, pour quelle somme
un joueur et faire
Vincent,
venir,
Vincent, alors, qui ouais. pour quelle somme?
Bah, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je pense que on a des joueurs qui ont une valeur marchande. On a viré des mandandins qui avaient des très gros salaires, certes, mais qui étaient importants dans le groupe, même s'ils jouaient pas tout le temps.
Il faut, attends, Vincent, je te recoupe, mais je veux bien tout entendre, mais il faut que tu étayes. Quand tu dis on a des joueurs avec une valeur marchande, qui?
Bah, on a un Milik qui a une belle valeur marchande.
Ouais, une dizaine de millions d'euros.
On a Pape Gueye qui pourrait très bien partir, qui sert de doublure et qui joue pas tout le temps.
Allez, ça vaut quoi, Pape Gueye? 10?
Bah, max? 20, 25. On a
Galeta. Ça veut rien dire. Demain, t'as un Fulham, ils peuvent venir avec 40, hein. C'est... Bah,
bien sûr. Il y a Galeta Tchar, en hiver, il devait partir pour, ouais. C'est une somme folle, 45 millions d'euros.
Mais là, il lui reste une année de contrat, donc s'il part, ça sera pour voilà. des cacahuètes.
Donc, dans ce cas-là, c'est aux dirigeants de Marseille de trouver le deal qu'il faut.
Le seul joueur qui a une valeur marchande, c'est Gerson.
Ouais, mais Gerson, il ne faut pas qu'il parte.
C'est le seul. Voilà. Et Bamba Dieng là-dessus. Ouais, mais Bamba Dieng, tu vois, les offres, on parle de 12, 13 millions d'euros. C'est pas non plus, tu vois, des sommes folles. Ouais.
Après, on s'écarte du débat, là, de base.
Non, parce que là, ce que Vincent disait, c'est.
Faire mon taf,
mais moi, je me demande, parce que ce que Vincent disait, c'était que on a des joueurs à valeur marchande, il faut les vendre. Et je pense, je vais au bout de son raisonnement, mis bout à bout, on aurait pu se payer un attaquant de classe mondiale à 40 millions d'euros. C'est impossible. La réalité du marché fait que c'est impossible parce que d'une part, Marseille a du mal à faire des ventes. Faut quand même voir les choses en face. Tongoria fait beaucoup de choses très bien, mais en termes de vente, il est médiocre. Il est médiocre sur la vente de joueurs. Et puis quand tu regardes le marché des transferts, qui est disponible à quelle somme, il y a très peu de joueurs du standing d'Alexis Sanchez qui sont disponibles. Et pour finir de te répondre, Vincent, je vais ajouter une chose. Je peux comprendre ton scepticisme. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir le Alexis de 27-28 ans qui était en pleine bourre, double champion des Amériques, etc. Mais si je te dis qu'il vient et qu'il va choix permettre de ne pas être en panique quand Dimitri Payet ne sera pas là. Si je te dis qu'il vient et que encore une fois et encore une énième fois Arkadiusz Milik sera blessé, ce sera lui qui va jouer. T'es pas content?
Mais on a pas besoin de lui. Mais j'ai pas besoin de lui.
Ah bon? Bah alors l'année dernière quand Payet est pas là contre Feyenoord, tout le monde est en panique pour la fin de saison. Bah, t'aurais pas été content de l'avoir?
Non.
Okay.
Très sincèrement, non. Moi, aujourd'hui, très clairement, si, admettons, hein, on joue avec le système actuel, avec 2-10, Payet, il se blesse, il sort, mince, j'ai mal, ok, d'accord, très bien. Et ben, dans ce cas-là, on fait rentrer, par exemple, un Luis Suarez de Wish, là, on le fait rentrer, on le met en pointe avec Milik, qui sait pas mettre un pied devant l'autre, on laisse Gerson en 10, et on a quand même notre rapport offensif. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un Alexis Sanchez qui joue peut-être sur une patte ou une patte et demie et qui n'est pas. On a
ça, c'est pas vrai.
Garantie.
Vincent, ça, c'est
j'ai
faux.
J'ai aucune garantie.
Mais il est juste vieillissant.
Quand est-ce que tu l'avais joué? Mais quand est-ce que tu l'avais joué?
Alors, moi, je regarde pas vraiment la première ligne, mais par contre, Serie A, en tant que maître des années 90, je la bouffe et je l'ai vu pas mal de fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il est entré, il est très peu titulaire, ça c'est sûr, mais à chaque fois qu'il est entré, il a été performant.
Après, Vincent, par rapport, juste pour te répondre.
Excuse-moi.
Oui. Non mais juste pour te répondre, moi je peux comprendre quelques doutes, on en a parlé un petit peu en début d'émission avec Jonathan. Après globalement aujourd'hui de toute façon Marseille est un peu piégé dans ce mercato parce que ils ont pas l'argent pour faire les jeunes joueurs que tu veux en devenir ou des joueurs de 24-25 ans qui ont cette capacité d'avoir une grosse.
C'était cher Luis Suarez quand même, hein.
Oui.
Il y a eu des sous quand
même. Ah oui, Luis Suarez, 11 millions d'euros, en plus on sait pas si c'est 50% ou si c'est 100% de donc aujourd'hui en fait ils sont un peu piégés entre les joueurs un peu vieillissants, 33 ans, des joueurs de renom, comme on avait parlé de Dries Mertens qui était un peu plus âgé en début de mercato, là c'est Alexis Sanchez qui arrive, donc je peux comprendre un peu ton avis. Maintenant, par rapport à ce qu'on voit actuellement à l'Olympique de Marseille devant, avoir un Alexis Sanchez qui l'année dernière jouait quand même la Ligue des Champions et le titre en Serie A avec l'Inter Milan, même si il était la troisième option derrière Lautaro Martinez et Dzeko, je pense que le Marseille ne doit pas bouder ce plaisir-là, cette solution supplémentaire, même si je te rejoins, il faudra voir. Parce que moi, le truc, oui, Payet. Payet une fois, Sanchez deux fois. On va voir, hein, parce qu'en termes d'ego, on parle quand même du capitaine de l'équipe. Et Sanchez, s'il vient, je pense que c'est pour jouer.
Ah, ça mais, peut être le problème, parce qu'il a un très gros ego.
Exactement, parce que ça peut être un problème et c'est un compétiteur. Maintenant, aujourd'hui, en valeur intrinsèque, en valeur brute, Sanchez, tu le prends à l'Olympique de Marseille par rapport à ce qu'on voit
t'as,
là.
T'as dit quelque chose de très important, Walid, qu'on n'a pas encore soulevé. C'est-à-dire, il a joué la Ligue des Champions l'année dernière. C'est quand même important dans ce groupe d'avoir des joueurs qui ont des références dans cette compétition. C'est important d'avoir des mecs qui connaissent la petite musique, qui vont pas se démonter, qui vont pas se dégonfler lorsque les soirs européens vont arriver. Et je pense qu'il est aussi pris pour ça. Il est pris pour son expérience des grands rendez-vous. Et rappelle-toi, Vincent, de nos dernières campagnes catastrophiques dans cette compétition, on en manquait de ça. On en manquait d'expérience.
Pas sûr qu'il se cache, Sanchez, en Ligue des Champions.
Exactement.
Peut-être qu'il sera mauvais, peut-être qu'il sera pas bon, mais il aura la personnalité
il va les poser sur la table.
On ne mettra pas forcément d'accord. Merci Vincent de nous avoir appelé au 32-16.
Tiens. Est-ce que je peux juste rajouter un truc, s'il vous plaît?
Oui, vas-y, Vincent, pour finir.
Alors, on vient mettre de l'argent sur un mec qui s'appelle Luis Suarez et sur un mec qui s'appelle Alexis Sanchez avec son nom, hein, parce qu'on achète son nom, hein, on n'achète pas vraiment ses statistiques, on achète son nom. Et par contre, on laisse passer des. On achète. Bah non, oui, c'est ce que je dis, oui, je le pense et je le pense fortement. Mais par contre, on laisse passer un Mohamed Ali Chou en début de mercato parce qu'il est trop cher.
Et Sanchez a coûté combien là? Il coûte combien? Il coûte 0 plus 0 la tête à Toto et 3 millions par an. Ça va?
Ouais, d'accord.
Après, c'est pas ce qu'il prend en prime à la signature,
oui,
etc.
Mais Mohamed Ali Chou, le problème, c'est que, en fait, Longoria, et là, pour le coup, je le salue, parce que moi, j'aurais bien aimé que Mohamed Ali Chou vienne à Marseille. C'est qu'il a dit, ce joueur, on estime qu'il vaut 12 millions d'euros, on n'ira pas plus haut. Il a négocié, il a vu que, Angers demandait beaucoup plus, et il a dit, j'estime qu'à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup.
Et puis, Mohamed Ali Chou, aujourd'hui, moi, je peux te rejoindre sur la spéculation, la plus-value, mais Mohamed Ali Chou, à son âge, pour jouer la Ligue des Champions cette saison, est-ce que tout le monde serait satisfait?
Bah, non.
C'est pour ça que Vincent, il faut vraiment prendre en compte la difficulté de Marseille là-dessus, c'est que ils sont piégés. Il leur faut de l'expérience
exactement.
Pour la Ligue des Champions, mais en même temps, il leur faut de la jeunesse. Mais ils ont pas d'argent.
Mais non, il y a les deux.
Je pense que Suarez et Sanchez peuvent jouer ensemble hein, devant.
Bien sûr.
Ouais, j'ai un doute.
Merci mais Vincent en tout cas d'avoir été avec moi.
J'espère que je vais me tromper. Est-ce que je peux passer un dernier message après
Vas-y.
Alors, je fais un gros bisou à Pilou.
Bah nous aussi.
M'écoute.
Pilou, c'est le copain de Choupi, ça.
Non, c'est pas le même. Mais c'est bientôt son anniversaire, c'est 30 ans. Alors, je vous fais un gros bisou.
Eh bah, bisous et joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire à Pilou. Merci
Vincent. Salut, bon anniversaire.
Les gars, on part à Monaco. Meeting de Monaco, c'est de l'athlétisme et c'est avec Samir Hammoudi. Salut Samir.
Salut Nico.
Avec le 100 mètres femme qui va débuter dans une poignée de secondes, hein, Samir.
Exactement, on y est à Monaco, dans le stade Louis II, le stade de l'AS Monaco, ce superbe stade avec une ambiance particulière lorsqu'il s'agit d'athlétisme. C'est une répétition avant les championnats d'Europe pour les athlètes du vieux continent. Mais on va commencer avec cette course de 100 mètres féminin et le duel attendu entre la championne du monde du 100 mètres, Shelly-Ann Fraser-Pryce, et la championne du monde du 200 mètres, sa compatriote jamaïcaine, Sherika Jackson. Sherika Jackson n'a jamais battu Shelly-Ann Fraser-Pryce sur la ligne droite et Mama Rocket, comme on la surnomme, Shelly-Ann Fraser-Pryce, est en train de réécrire les livres d'histoire de l'athlétisme. Cette jeune femme a un record personnel assez incroyable avec 10 secondes 60 et elle est invaincue cette saison. Les jeunes femmes sont dans les starting blocks. Ça va pouvoir commencer dans un instant. Shelly-Ann Fraser-Pryce au couloir 5, Sherika Jackson au couloir numéro 3.
Allez, ça va partir dans une poignée de secondes.
Et c'est parti avec ce départ, avec Mama Rocket qui est partie très très fort. Elle est très très bien. Mama Rocket devant en tête. Sherika Jackson essaye de revenir. Et Shelly-Ann Fraser-Pryce va s'imposer. Encore une victoire pour elle. 10-61. Énorme chrono. Meilleure performance mondiale de l'année. Elle continue sa série époustouflante. 8 victoires cette année. Une moyenne à moins de 10 secondes 73 cette saison. Sur toutes ses courses, elle est en train de réécrire les livres d'histoire. Elle bat les record de Marion Jones ou de Florence Griffith Joyner et elle réalise après une saison estivale monstrueuse et son titre à Eugene est bien encore une très très grosse course ici à Monaco, temps corrigé 10-62, c'est le record du meeting.
Merci beaucoup Samir, qu'on retrouve dans quelques minutes pour le 110 mètres. Ouais. Homme, on poursuit avec nos débats sur Alexis Sanchez. Et on va l'écouter, Alexis Sanchez qui était donc aujourd'hui en conf de presse devant la presse, conf de présentation. Bah, on lui a demandé ce qu'il connaissait de l'Olympique de Marseille avant de signer à l'OM. Bah, écoutez sa réponse.
Lo que me han comentado que un equipo que
On m'a dit que l'OM avait une très grande histoire, le plus grand club français, le seul à avoir gagné la Ligue des Champions. Le dernier trophée date d'il y a 10 ans, il me semble, et c'est un défi pour moi de venir gagner des titres ici.
Alors c'est le fameux on m'a dit qui a fait beaucoup de buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
Ouais, voilà. Lucien Agoumet, ouais, c'est
aussi, qui derrière lui a beaucoup parlé, lui a cassé la tête en mode vas-y, tu vas voir l'OM, c'est top. Voilà, Alexis Sanchez, petite présentation, donc on lui a expliqué que l'OM était un grand club français. Mathieu, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Salut Mathieu.
Salut la team. Salut Mathieu. Super content d'être à l'antenne.
Bon, on est content que tu sois là aussi, Mathieu.
Ah, super. J'étais en train de bouillir en entendant le précédent auditeur. Chacun ses avis, mais je me suis rongé tous les ongles là. J'en
prends. Alors vas-y, t'es pas d'accord. Toi, t'es emballé. Alors,
fais attention au Panari quand même.
Comment? Parce que moi, je n'ai pas entendu.
Fais attention au Panari si tu te coupes les ongles.
Toi aussi, tu l'as vécu.
Ah oui. Je peux te dire, tu passes un sale quart d'heure.
Ici, c'est Panari.
Avant de parler strictement de Alexis Sanchez, je voudrais juste tirer mon chapeau à notre président Longoria qui tient ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a un mercato qui est préparé. C'est ce qu'il dit en conférence de presse. Ils sont sur le dos depuis le mois de mai ou juin. Il a un mercato qui est maîtrisé en termes de budget. On sait très bien que Marseille, c'est pas le Paris Saint-Germain. On n'a pas les fonds souverains du Qatar. Donc il fait avec les moyens qu'il a. Et quand on a un Mohamed Ali Chou qui vaut 12 patates, bah peut-être qu'on peut mettre 12 patates sur deux autres joueurs. Et puis on a un mercato qui est fait d'opportunités. Et aujourd'hui, Alexis Sanchez, c'est une opportunité de dingue pour notre club.
Exactement.
C'est un joueur qui a une expérience fabuleuse. Il a connu tous les grands clubs européens. On l'a cité, les championnats qu'il a traversé. Je comprends pas comment on peut me dire que c'est une mauvaise rue. Et je veux juste rappeler quelque chose aux supporters marseillais. C'est que notre dernière campagne de Coupe d'Europe, je parle pas de la C1 de la dernière fois, mais de la C3, on la joue avec Valère Germain et Kostas Mitroglou.
Oh là là, arrête de reparler.
C'est
ça.
Vrai, il y a un auditeur qui nous a appelé pour nous dire la même chose hier soir.
Voilà, c'était moi, je crois. Vous m'avez rappelé après. C'était moi.
Tu t'es abonné, toi, ça y est.
Ouais.
De passer de Galère Germain à Alexis Sanchez, le saut qualitatif, il faut se mouiller le front, hein.
Je vous rappelle que Kostas Mitroglou, on va l'acheter en panic buy le 29 août parce qu'on s'est pris une tollée par je sais plus quelle équipe et Jacques Henry va nous faire un panic buy à 20 patates
15 pour la moitié des droits je crois à l'époque ouais.
15 pour la moitié. C'est ça. Un montage improbable encore comme il savait les faire, hein. J'ai rien contre notre ami Jacques Henry
tu devrais.
J'ouvre une petite porte. J'imagine ce que serait l'OM aujourd'hui si Pablo Longoria avait pris les rênes du club quand McCourt est arrivé il y a quelques années.
Non, il faut pas parce que ça fait mal au cœur.
Voilà, et je pense qu'on est d'accord. Mais pour conclure mon propos, c'est une recrue fabuleuse et en plus aujourd'hui on a une ligne d'attaque qui est quand même hyper complète. On a un finisseur bon qui est pas en réussite aujourd'hui mais qui s'appelle Milik qu'on rêvait tous d'avoir un moment
alors
donné,
attends juste tu sais quoi, j'ai revu le match contre Marseille Reims là. Et en fait il fait un très bon match Milik.
Ah ouais.
Enfin, très bon match.
Ah ouais.
Les appels qu'il fait, la manière dont il a ouvert des brèches pour ses coéquipiers.
Ah bah faut que je me le refasse une deuxième fois.
On s'attendait à beaucoup d'autres choses de sa part, effectivement. Dans le jeu et dans son positionnement, je peux comprendre pourquoi tout le monde à Marseille, y compris Tudor, pense qu'il a fait un bon match.
Ah, tu te satisfais de peu quand même.
On va parler des autres attaquants. Merci Mathieu d'avoir été avec nous en tout cas.
Mathieu. Je vous en prie. Bonne soirée, les gars.
Merci à toi aussi. À très, très bientôt. Question de Flo Germain aujourd'hui. Conf de presse à Pablo Longoria. Alors, avec l'arrivée de Sanchez, combien de joueurs offensifs Pablo Longoria compte-t-il vendre maintenant? Écoutez.
Donner un chiffre concret, c'est compliqué. Mais dans une configuration idéale dans une équipe, sont 22 joueurs en comptant des gardiens, 2 joueurs par position. C'est toujours l'objectif qu'on a de la construction de l'effectif.
Voilà, alors il a toujours été très, très clair, hein, ligne directrice, il s'y tient, Pablo Longoria. Et il y a un autre dossier également sur lequel il se tient, c'est celui de Douillet de Chalet Tatsar. Il sera en fin de contrat dans un an. Vous savez que Longoria avait expliqué dès sa prise de fonction à l'OM que les joueurs en fin de contrat, ils ne seraient pas maintenus au sein de l'effectif marseillais. Alors, quid de Chalet Tatsar?
La politique du club, et on répète ça, l'Olympique de Marseille n'aura pas dans son effectif aucun joueur en fin de contrat. Ça, c'est une situation qui est claire pour tous les joueurs. On a parlé avec l'entourage du joueur, on a parlé avec les joueurs. Pour ça, que ça, c'est une situation qui est très claire comme politique du club.
Voilà, effectif réduit, ouais. Pas, on garde pas des joueurs en fin de contrat, mais il se tient dans sa ligne de conduite.
Une chose qui est très claire, c'est quel joueur offensif ils veulent vendre. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est Bamba Dieng et Cédric Bakambou.
Ouais. Plus clair pour Dieng que pour Bakambou, visiblement. Ce qu'elle nous disait Florian.
Bakambou, il négocie avec pas mal de clubs. C'est lui qui apparemment veut rester pour jouer la Champions League et qui a un très gros salaire.
Il a une petite cote en Liga après ce qu'il a fait à Villarreal.
Exactement, il a eu des négociations avec le Celta notamment. Mais encore une fois, ce qui coince, c'est son salaire. Donc à voir comment tu t'en sors. Mais la meilleure des solutions avec Tchaletatsar, c'est de lui dire, écoute mon grand, on n'a pas apprécié ta petite bouderie, le fait que tu deviennes totalement minable après ton transfert avorté à Liverpool. On est une autre direction. Tu vois qu'on est ambitieux, on est qualifié en Ligue des Champions. Re-signe et fais la saison avec nous. Et plutôt que d'être mis au placard alors qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive en fin d'année, etc. Moi, je pense sincèrement, je sais qu'il y a la majorité des suiveurs de Ligue 1 disent que c'est un joueur moyen. Moi, je pense que c'est un excellent joueur et que la meilleure des solutions pour l'Olympique de Marseille, c'est de le conserver. Parce que admettons que tu arrives à le vendre parce qu'il est en fin de contrat, qu'il va pas re-signer. Quel joueur du niveau de Douyet Tchaletatsar tu vas pouvoir signer à des prix corrects? Je pense que ça risque d'être une tâche
très
compliquée.
Après, je pense qu'il veut penser qu'à sa gueule.
Tu sais, quand on parle de la Croix, c'est très bien, la Croix, mais ça va coûter très cher. Ouais. Et je pense pas que la Croix, ça soit à l'instant T meilleur que Douyet Tchaletatsar.
Après, ça
Donc, pour moi, Tchaletatsar, je pense que tu lui dis, écoute, tu re-signes d'un an. Voir non, deux,
ouais, mais bon, lui, il se dit quoi? Il dit dans un an, je fais ce que je veux.
Dans le monde des bisounours, Jonathan, c'est qu'aujourd'hui, lui, il sait très bien qu'il s'est senti trahi par l'ancienne direction, par rapport à ce qui s'est passé. On l'a pas voulu le laisser partir à l'époque.
Je vais te dire pourquoi c'est possible.
Oui, mais aujourd'hui, je pense que Tchaletatsar, il pense à sa prime à la signature. Il pense qu'en étant libre, il va avoir beaucoup plus d'offres que s'il prolonge à l'Olympique de Marseille. Et il veut terminer l'histoire avec l'Olympique de Marseille.
PSG Marseille, j'étais assis à côté d'un recruteur de PL qui bosse pour tes amis, pour Wolverhampton.
Ah oui, c'était José, non?
Non.
Ah, c'était Antonio alors.
J'en sais rien. Je sais même pas comment il s'appelle.
Wolverhampton, c'est le bled.
Il avait sa tablette avec tous les trucs. Ouais. Et en gros, moi, je lui demande, Tchaletatsar, en gros, il était venu pour voir Bouba Camara. Mmh. Le reste, il en avait rien à
carrer. Il a vu qu'il était pas portugais, il a dit, laisse tomber. Là.
Non, il voulait juste voir Bouba Camara.
Tu redis Bouba Camara?
Ouais, je le redis, c'est bon.
Ah, c'est bon, avant, il l'appelait Voldemort.
L'autre, là, qui est parti, je sais plus où.
Vas-y.
Et en gros, je dis, Tchaletatsar et tout. Vas-y, le problème, c'est que ses stats et les data physiques qu'ils ont sur lui, ça correspond pas à ce que la majorité des clubs importants de PL cherchent. Et si Liverpool a fait l'offre à un moment donné, c't que Liverpool était vraiment en galère de défenseur.
Ah oui, mais c'est pris Kabak.
Juste pour ça.
Je pense que
c'est aussi dans son intérêt de re-signer.
Dans quelques instants, Marseille qu'on retrouvera dimanche soir. Hein, 20h45, ce sera l'affiche du dimanche soir. Ce sera du côté de Le Blé à Brest. Dans quelques instants, Jean Baumel sera avec nous parce qu'aujourd'hui, Olivier Létang a donné une interview à BFM Lille. Il s'est notamment exprimé sur le mercato du LOSC, supporter de Lille. Qu'attendez-vous de cette saison?
Ah, mais moi, je suis surpris par le mercato du LOSC.
C'est-à-dire
la superstar Isaac Liadji risque d'être envoyé dans un club anonyme.
C'est bizarre.
Le mec qui était meilleur que tout le monde. Le mec qui était meilleur, qui disait ouais, nous on sera pas un joueur comme Poitou Maolida. Le superstar du Ballon d'Or.
Dans une poignée de secondes avec Walid et avec Jonathan, et on va aller vomir. À tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
Avec Walid Acherchour, Jonathan McCardy, il est 20h36, vous êtes sur RMC dans l'After, bien entendu. On a écouté Pablo Longoria et Alexis Sanchez qui étaient en conf de presse de présentation aujourd'hui, le nouveau joueur de l'OM. Et maintenant, on part à Lille. Alors Lille qui a bien débuté sa saison, victoire 4-1 face à Auxerre lors de la première journée. Et Lille qui bouge pas mal cet été, notamment sur le Mercato. Cette semaine, Lille qui a officialisé la vente d'Onana à Everton. Alors un transfert autour de 40 millions d'euros, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais le LOSC qui a atteint les 100 millions d'euros de vente rien qu'au cours de ce Mercato. Supporter Lillois, qu'attendez-vous de cette saison? On vous attend au 32-16 pour y répondre. Et on accueille notre Jean Baumel, bien sûr, notre régional de l'étape. Thibault. Salut, Jumbo.
Salut, Nico. Salut, Jonathan. Salut, Walid. Salut à toutes et à tous. Ouais, très bien. C'est vrai que quand on regarde les chiffres à Lille, c'est impressionnant quand même. 107 millions d'euros de transfert et 19 d'achats.
40 millions, on en a quand même, c'est une très belle
vente. Je faisais je faisais une petite comparaison, j'en avais parlé à Nico tout à l'heure, hors antenne. Openda, qui est belge, qui est attaquant, 10 millions d'euros avec Bruges. Il est arrivé chez les Diables Rouges en même temps qu'Onana. Et Onana, milieu plutôt défensif, 40 millions d'euros. Moi, j'y sais de la magie.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein.
Après, il a des qualités, hein, mais 40 millions.
Il fait une saison, surtout.
C'était pas prévu. La somme n'était pas prévue.
Ouais.
Franchement, on s'attendait plus à 15-20. Mais tant mieux pour Lille. Hein.
Attends, et puis si en plus le Lokomotiv Moscou offre 2 millions pour la superstar Isaac Liadji, c'est encore mieux.
Mais il veut pas y aller.
C'est bizarre, Marley Hacker, il joue à la Juve. Lui, il est.
Bon, d'ailleurs, comme tu en parles des départs, Jonathan, les deux qui devraient quitter Lille encore, c'est Yazici et Eliadji. Alors Yazici qui a été acheté 18, bon, je pense qu'ils vont pas réussir à le vendre autant. Eliadji, c'est un petit peu moins, mais voilà, c'est les deux dossiers, voilà, en termes de départ.
Yazici, j'aurais quand même des 2-3 regrets, hein, parce que c'est vrai qu'il a été régulier, il a beaucoup déçu. Mais tu vois quand même.
Il a été bon à Moscou, hein, bon mais bon, on l'a pas trop suivi. Hein, mais il a eu de très bonnes stats à Moscou. Voilà, maintenant aller jouer dans le championnat russe, c'est pas simple.
Non mais Djibo, Olosk, je te le dis, là, il a souvent déçu, souvent pas été à la hauteur. Mais tu sens quand même qu'il a du ballon, quoi.
Ouais, il y a un truc. Il a eu des périodes. Bah, rappelle-toi le triplé qu'il met contre Prague et après contre Milan.
C'est pas l'utilisation qui a jamais été trouvée.
Ben, je pense que.
Il doit jouer 10.
Ouais, faut qu'il joue 10, faut qu'il soit en confiance.
Vraiment, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais.
Comme à Trabzonspor, c'était le chouchou, c'était lui, c'était le meneur, c'était la star. En arrivant à Lille, ben, déjà rien que Bourak, c'était une star turque qui était largement au-dessus de lui, c'était bien Bourak. Ouais, c'est compliqué, je pense qu'il faut qu'il. Je pense qu'il doit changer d'air.
Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais des fois, il se regardait un petit peu trop.
Il n'est pas très rapide, hein.
Ouais.
Alors si t'es là Djibo aussi, c'est parce qu'aujourd'hui Olivier Létang, président de Lille, était l'invité de BFM Lille. Il a notamment fait un point sur le mercato lillois. On va l'écouter, Olivier Létang. Alors Lille qui a déjà vendu Botman, Renato, Onana, mais il a expliqué, le président du LOSC, qu'il ne voulait plus perdre personne, hein, maintenant.
Aujourd'hui, on veut garder maintenant l'effectif que l'on a. Après, on a peut-être un ou deux joueurs qui vont partir, mais pas d'équipe type. Notre volonté, c'est vraiment de garder cet effectif-là. On veut garder un effectif solide. Pour moi, le meilleur élément marketing, c'est de gagner des matchs. Aujourd'hui, on n'a absolument aucune obligation et nécessité de vendre.
Voilà, Olivier Létang qui a aussi expliqué, Djibo, qu'il avait réussi à remettre le club à flot financièrement. Il avait pas mal de boulot à ce niveau-là aussi. Hein.
Ah oui, parce qu'en fait, bon, ils ont bien vendu. Il faut rappeler aussi que Renato Sanchez est parti. Alors, on parle de la somme du transfert, mais c'est aussi le salaire. Grosse économie. Bourak qui part, grosse économie de salaire. Ouais, donc, ça fait, avec tous les départs, ça fait quand même aussi, il y a un paramètre énorme. Donc, c'est vrai que la dette, elle tourne autour de 200 millions d'euros. On était dans les 300, un peu plus de 300 il y a deux ans. Donc, c'est vrai que... Bah, en faisant des économies un peu partout, parce que c'est l'objectif. Hein. Lille ne fait plus partie des top 5 au niveau budget, au niveau de la masse salariale. Voilà, il va falloir trouver des solutions. C'est pour ça qu'ils ont pris Jonas Martin qui est libre, Zedatka qui est dans le même cas. Il y a également Ismaili qui était libre du Shakhtar Donetsk. Donc voilà, le plus gros transfert, c'est Bayo, 14 millions d'euros. Sinon, Alessandro, c'est 2 millions d'euros. Tu le connais bien, Nico.
Ouais, qui est à Chavez.
Et Bafodé, Diakité, 3 millions d'euros, le jeune défenseur politique. Livalent de Toulouse. Donc voilà, et ils ont encore des valeurs marchandes. Alors ce qui est important, c'est que Jonathan David, qui était extrêmement bon dimanche dernier, alors après on va pas s'enflammer parce que c'était la JOCR et que il y a certainement un écart de niveau assez élevé, mais si Jonathan David continue à cartonner jusqu'à la fin du mois d'août, pas sûr qu'il parte, parce que là ils en ont besoin, et ça sera certainement la future valeur marchande, comme un Botman, comme un...
Ça va partir à 60 millions d'euros, cette histoire. Hein.
Voilà, s'il fait une grosse saison, ça peut être lui.
Après, je pense qu'il y a la Coupe du Monde en janvier et qu'il va partir dans un autre club, comme ça.
Bah, ça va être la star du Canada, déjà. Donc, déjà, ça sera intéressant de le voir. Janvier, quoi.
Oui, c'est ça, en janvier, je pense qu'en janvier... Là, parce que Djibo,
même si dans un club, il n'est pas titulaire à tous les matchs, j'ai du mal à imaginer que le Canada ne titularise pas.
Non, bien entendu, mais je pense qu'en termes de valorisation... la Coupe du Monde peut aussi lui faire.
Ah,
lui
je veux dire que Lille a intérêt à garder. Il n'y a
pas juste la question de la valeur.
Si demain il met un doublé dans
la
en plus, c'est une poule.
Il y a la question
Maroc,
qui va avoir un effet domino sur le marché, et que les gros transferts, les gros mouvements vont intervenir sur le mercato d'hiver, ça on le sait tous. Il y a beaucoup de clubs qui se retiennent. Le marché cette saison est impacté fortement par ça. Et vous verrez qu'en janvier, des joueurs qui ont commencé leur saison, des joueurs qui sont importants dans leur club, à l'image de Seko Fofana, ou je pense que ça sera le cas pour Jonathan David, il y a de fortes chances qu'ils partent en janvier. Mais profitons-en encore 6 mois.
Mais c'est vrai que il y a que 15 matchs. On va jouer que 15 matchs. Trêve internationale, Coupe du Monde. C'est vrai que c'est particulier, très particulier.
Ouais. On va écouter Olivier Létang également, qui s'exprimait sur les objectifs du LOSC pour cette saison. Alors c'est marrant, c'est une conversation qu'on a souvent eue d'ailleurs avec toi, notamment Djibo, en off. C'est vrai qu'on se demande finalement c'est ce que va viser Lille cette saison. Voilà ce que répond le président lillois.
nos objectifs et mon objectif, c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Je veux une équipe qui ait de la personnalité, je veux une équipe qui ait un supplément d'âme et je veux une équipe qui rende fiers nos supporters, notre communauté. Il y a beaucoup d'équipes ou clubs qui veulent se qualifier pour la Coupe d'Europe. On est moins riche aujourd'hui que des clubs comme Paris, comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, comme Nice, comme Rennes. Maintenant, il reste un peu plus de 3 semaines jusqu'à la fin du mercato. On est bien évidemment en éveil, on est en permanence en train de regarder comment et si l'on peut améliorer cet effectif. Parce que si on veut jouer tous les matchs pour les gagner, il faut qu'on ait un effectif de qualité. Mmh.
Alors, les temps qui parlent d'une équipe qui rende fiers les supporters du LOSC, Gibault, ils veulent kiffer finalement, non, les supporters?
Ouais, bah, la saison dernière, ça a été surtout les 10 derniers matchs. Autant en Ligue des Champions, voilà, il y a eu du plaisir, un deuxième huitième de finale dans l'histoire du club. Mais la fin de saison, elle a été catastrophique. Lille avait un peu comme Lyon, on se disait, bon, ils vont finir par y arriver. Ce sont des équipes qui ont l'habitude d'être en Coupe d'Europe. Ils vont s'arracher. Et non, il s'est rien passé. Il y a eu des claques incompréhensibles, notamment à 3, où justement, ils en ont pris 3. Les supporters, quand tu discutes avec eux et même au niveau du club, avoir du plaisir, voir du beau jeu, donc forcément avec Fonseca, c'est un peu l'homme parfait. S'il y a les résultats, on imagine bien. Moi, je vois bien Lille, franchement. Le poil à gratter, poil à gratter des équipes, ouais, ça va pas être un cadeau pour Marseille, pour Monaco, pour Lyon.
Tu les vois où?
Moi, je les vois taper la 5e ou 6e place.
Ah ouais, quand même.
Ouais, je trouve que au niveau de l'effectif, et c'est peut-être pas terminé, je trouve que sur le papier, avec un match par semaine, je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose d'intéressant.
Moi, 5e place, ça serait déjà bien.
Moi, j'ai surtout espoir en Paulo Fonseca, même si je pense que cette année, ça va être un petit peu trop tôt. Moi, je vais avoir un peu plus d'exigence sur la deuxième année, même s'il va montrer, je pense, l'étendue de son talent. Et on l'a vu déjà sur le premier match, par rapport au pressing, par rapport à cette capacité à bien faire jouer son équipe. Mais il a eu aussi, que ce soit au Shakhtar, à l'AS Roma, même si c'est un des contextes totalement différent, des fois quelques irrégularités dans ces équipes, et je pense qu'en termes de matériel, même si le recrutement est plutôt sympa et plutôt intelligent sur quelques postes, mais je pense que par rapport à ce qu'il y a devant, pour moi je mets Rennes au-dessus, je mets Marseille au-dessus, je mets Lyon au-dessus, je mets Monaco au-dessus, même Nice, attention à Lens.
Lance
et Lille, ils vont pas être très loin.
Ils vont pas être très très loin, mais tu vois
ce Djibo.
Non, mais tu vois ceux que j'ai cités.
Non, c'est pas loin.
Tu vois ceux que j'ai cités.
Carbone.
Tu vois, t'entends ceux que j'ai cités juste avant, quand même. Ce serait quand même une très belle performance de les voir au
Djibo. Franchement. Tiens les gars, juste on poursuit dans quelques instants. On va retourner à Monaco, les gars. On poursuit dans quelques instants, supporters du LOSC. On vous attend au 32-16. On retourne à Monaco, retrouver Samir Hammoudi pour le meeting de Monaco. Il y a le 110 mètres et homme qui va débuter dans quelques instants, Samir, avec 3 Français notamment dans les starting blocks. Hein.
Ouais, 3 Français, Nico. Une atmosphère toujours aussi magique ici à Monaco, au stade Louis II. 3 Français. Et là, on est sur une vraie répétition des championnats d'Europe de Munich qui auront lieu dès lundi prochain, puisque 3 de nos qualifiés courent ce soir jusqu'au Oumaté qui sera au couloir numéro 1, 2 fois 3e des championnats de France, mais surtout demi-finaliste des derniers championnats du monde il y a 15 jours. Sacha Zoya, vous en avez forcément entendu parler. C'est la nouvelle merveille et une grosse chance de médaille pour Paris 2024. Un talent fou pour ce garçon qui est recordman du monde cadet et junior et qui fait sa première saison parmi l'élite et parmi les seniors. Et puis au couloir numéro 8, Pascal Martino Lagarde, qui fait presque figure de vétéran puisqu'il aura 31 ans en septembre prochain, 4e aux Jeux Olympiques de Rio et 5e à Tokyo il y a 2 ans. Il a été blessé, Pascal Martino Lagarde, pendant les championnats du monde de Eugene, mais maintenant tout va mieux et il espère pouvoir réitérer sa performance de 2015 parce que c'est sur cette piste qu'il avait réalisé le record de France avec 12,95. Mais attention, parce que les favoris sont au milieu, avec notamment les Américains Trey Cunningham et Grant Holloway, couloir 4 et 6, et le champion olympique jamaïcain au couloir numéro 5, Ansley Parchment. On sait que Grant Holloway était très proche du record du monde la saison dernière, 12,80. Il avait réalisé le record du monde, est à 12,80. C'est celui d'Ariès Merit et qui remonte à 2012 après les Jeux Olympiques de Londres. Et cette piste, je viens de vous le dire, est tellement magique qu'on croit véritablement au record du monde ce soir. C'est véritablement possible. Mais on va suivre, bien sûr, la performance de nos Français. Au couloir numéro 1, juste Kwaou Maté. Au couloir numéro 2, 20 ans seulement, Sacha Zoya. Et couloir numéro 8, Pascal Martino Lagarde. Allez, les athlètes se mettent tranquillement dans les starting blocks. Ils sont en place et cette course va pouvoir partir. La magie de Monaco va pouvoir agir.
Allez, le 110 mètres, ouais.
Et c'est parti avec un bon départ justement au couloir numéro 2 de Sacha Zoya. Ça accélère avec au couloir numéro 3 Daniel Roberts, l'autre américain. Mais c'est Grant Holloway qui est en tête. Grant Holloway, facile. Grant Holloway, l'américain champion du monde, va s'imposer. Grant Holloway pour 13-0-0. C'est un bon chrono et une victoire. C'est une petite déception parce que c'est vrai qu'on aurait peut-être pu attendre un petit peu mieux en termes de chronomètre. Et Sacha Zoya finit tout de même quatrième. On attend son chronomètre à la photo finish. Le trio de tête, Grant Holloway, Trey Cunningham et Hansley Parchment, le champion olympique. Daniel Roberts a réussi à s'immiscer aussi dans le quatuor de tête devant Sacha Zoya. Sacha Zoya qui finira donc cinquième. J'attends son chrono, je vous le donne dès qu'il sort. On est vraiment à la photo finish, mais ça reste une belle performance a priori vu les chronos pour Sacha Zoya, puisque avec cette course parmi l'élite, sa deuxième en Ligue de Diamant après sa course de Paris, eh bien il va réaliser 13-21.
Merci beaucoup Samir, qu'on trouve tout à l'heure pour le 200 mètres sur les coups de 21h30. Supporter du LOSC, on vous attend au 32-16. Qu'attendez-vous de cette saison? On sera avec Eric dans une poignée de secondes qui nous a appelé au 32-16. Jean Baumel toujours avec nous, Jonathan Macardy et bien sûr Walid Acharchour, tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Jonathan Macardy, Walid Acharchour, Jean Baumel également est avec nous parce qu'aujourd'hui Olivier Létang était l'invité de BFM Lille. On l'a écouté, hein, le président lillois il y a quelques instants. Qu'attendez-vous de la saison du LOSC? On vous pose la question, supporter de Lille au 32-16. Et on a Eric qui nous a appelé justement et qui est en direct avec nous dans l'after. Salut Eric.
Oui, bonsoir à tous.
Salut Eric. Et il a une particularité. Salut. Eric.
Ah, tu le connais?
Ouais. Troisième prénom de son fils, c'est
Bourak.
C'est quoi cette histoire?
C'est incroyable ça.
C'est vrai, tu nous l'avais dit.
Tu l'as appelé Bourak.
Eh oui.
Ouais. Je voulais le mettre en 1, mais ma femme, elle m'a fait un
sketch. Je t'avais dit, tente un Jean Bourak ou un.
Mais divorce, c'est important, c'est important, tu choisis,
Jean
non?
C'est Jean en 2 et Bourak en 3.
T'es pas sérieux?
Magnifique, Eric. Je pensais pas que tu le ferais.
La saison dernière, t'étais pas dégoûté?
Ben, écoute. Moi, j'ai pas débandé depuis le titre, quoi, donc.
alors, du coup, il y a combien de gamins qui arrivent là?
C'est un peu la question, on attend des jumeaux, non?
Ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'était des jumeaux.
Ça s'appelle Renato, oui?
Non, Renato, sûrement pas, mais non.
Renato était meilleur que Bourak l'année dernière.
Ouais.
Ouais, après, tu vois.
Il va l'appeler Jocelyn, je crois.
Ouais.
Non, José. José. Jocelyn.
Ouais, José, il est stylé. Non.
Ah, José, c'est la classe.
Ah bah.
Ouais, après, tu vois, moi, je. Enfin, bref, Ah bah, ça a été des disputes, tu vois, mais.
Il nous disait qu'il allait vraiment. Il l'avait annoncé.
Eric, mais sérieusement, ta femme a vraiment accepté, même en troisième prénom, que tu mettes Bourak.
Non, elle n'était pas pour. Mes parents, ils m'ont défoncé. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle a une césarienne, elle n'allait pas aller à la mairie. Donc, je l'ai dit.
Oh, le salaud!
Et du coup, elle m'a dit, elle n'était pas pour. Elle m'a dit, mais tu fais ce que tu veux. Parce qu'elle savait très bien que si elle me l'interdisait, elle le risquait en premier prénom. Donc, elle a joué psychologie fine. Elle a dit, non, mais si tu veux, tu peux. Et bah, du coup, c'était bon.
C'est quoi le premier prénom?
C'est Victor. Pour Victor Osimhen. Non, je déconne.
pour les 90 millions.
Victor. Ou Victor Zinka.
Victor Jean Bourak.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est extraordinaire. Comme prénom. Extraordinaire. T'es un bon Eric.
Il est adorable et il a le caractère de Bourak, figurez-vous.
Il s'est barré aux Pays-Bas.
Ah bah non, bah là je le dépose direct parce que putain. Mais ouais, bref, il faut le gérer quoi.
Il faut le gérer.
Alors Eric, comment tu la sens cette saison? On a écouté Olivier Létang qui explique en gros l'objectif de la saison, c'est de rendre fiers les supporters du LOSC. Qu'est-ce qui te rendrait fier toi cette saison?
Sincèrement, une équipe qui a un comportement bien différent. Je pense que la hargne, il faut plus la mettre contre les arbitres, mais contre les adversaires, et en particulier ceux qui jouent en sang et or. Moi, ce serait déjà très important. Je trouve que l'effectif, il est pas mal. Après, c'est compliqué, mais je trouve qu'on est plus fort que l'année dernière en termes d'effectifs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est dégraisser à Lille, malheureusement. Je pense qu'il est plus important de dégraisser que de recruter. Parce que je crois qu'un mec comme Liadji ou Yaziche dans le vestiaire, c'est pas top. Ça ne sert à rien en plus footballistiquement parlant, donc il faut leur trouver une solution et donc voilà, maintenant nous ce qui nous rendrait fiers sincèrement c'est déjà de ne pas se faire déboîter par Lens deux fois cette saison, ça ce serait déjà on commencerait un petit peu, produire du jeu pourquoi pas, mais côté combattant, quoi, vraiment avec une énergie tournée vers vers le jeu. Des mecs comme Benjamin André, José Fonte, on se reconnaît totalement, nous les supporters, dans ces mecs-là.
Martin, ça correspond aussi. Martin, hein.
Voilà, exactement.
Jonas Martin, moi, je t'avoue que je l'ai jamais vraiment aimé, quoi. Je veux dire, typiquement, c'est le mec.
Bah, mais tu l'aimes bien quand il est avec toi.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Un peu sur deux matchs, tu vois, un peu.
C'est une petite garce, mais dans le bon sens du terme.
Voilà, il en faut de toute façon.
Bah oui.
Parce que c'est pas avec Angel Gomez, le mec. T'as
ouais, mais il est pas que vicieux, hein, même avec le ballon. Moi, je l'ai vu l'année dernière avec Rennes, capable de faire de belles choses. Hein.
C'est un bon joueur.
Même à Montpellier à l'époque. Hein.
Ouais, t'aimes pas l'affronter en fait.
Donc, même Cabella, il fait du bien.
Bah, en plus, il l'a positionné dans un rôle assez bizarre dimanche, Djibo Cabella, un peu hybride là, comme ça, vraiment au milieu de terrain.
Il y a l'aspect terrain, mais ce qu'Eric veut dire aussi, et j'en ai parlé avec Olivier Létang tout à l'heure à BFM Lille, c'est que ce sont des profils de joueurs qui avaient pas assez à Lille. Je vais prendre l'exemple de Lens, il y a des Jonathan Grady, des Sotoka. Il faut repartir aussi avec des joueurs qui comprennent le club, qui vont vers les supporters, qui se sont un peu coupés.
À taille humaine, quoi.
Voilà. Ils avaient une belle équipe, mais des joueurs qui, ils savaient, ils étaient de passage.
Accessible, ouais.
Ils étaient de passage. Donc, s'investir à Lille, ils faisaient pas l'effort d'apprendre la langue. Et là, ce sont des joueurs, qui sont plutôt en fin de carrière, qui sont dans un bon club, et qui ont envie de réussir un dernier pari. Ouais. Et voilà, je pense que, voilà, il y a pas de risque. Cabella, c'est un an de contrat. Si tout va bien, il aura un an renouvelé. Pour Jonas Martin, c'est 2 ans. Voilà, il y a un besoin d'un petit peu de retour aux sources et aussi d'ouvrir les entraînements aux supporters, parce qu'il n'y en a eu qu'un d'ouvert la saison dernière. Bon, c'est il y a un moment les supporters quand tu te régales pas au stade et que tu vois pas les joueurs, il y a un moment voilà, ça frustre à fond. Et là, il y a cette volonté de revenir en arrière, mais je pense qu'ils ont quand même un effectif. D'ailleurs, dimanche dernier, il manquait Goodmanson qui était suspendu, qui va dans Diallo à gauche, c'est pas son meilleur poste, hein, il est meilleur dans l'axe voire à droite.
Bien sûr.
Martin était blessé, là il va être opérationnel. Donc Angel Gomez qui joue milieu de terrain. Non, ils ont quand même des choses intéressantes. Et je pense que la piste Blas, pour l'instant il n'y a pas eu d'offre, mais je pense que c'est un dossier qui va être
très bon coup, ça. Et Wang, c'est d'actualité ou pas?
Non, j'en ai pas entendu parler, mais c'est. Je te dis pas que c'est faux, hein, mais j'en ai pas entendu parler.
Okay. Merci Djibo d'avoir été avec nous.
Allez, avec plaisir.
Merci pour toutes ces infos et merci Eric aussi. Et on espère que le prochain s'appellera Paolo du coup.
Il n'y en aura pas de prochain. Il n'y aura plus jamais d'enfant pour moi.
Bah pourquoi tu dis ça, enfant, Eric?
Je suis éreinté, j'en peux plus. Je suis à deux doigts de la mort, je peux plus aller au stade.
Bah, il a quel âge, ton gamin, là?
Bah, là, j'en ai deux, ils ont 10 mois.
T'en as eu deux d'un coup, là?
Bah, ouais, c'est pour ça.
Ah, moi, ouais, voilà le taf.
Moi, j'ai pris 10 piges la saison dernière. Gourvennec et des jumeaux.
Gourvennec et des jumeaux. Dédicace à mon beau-frère, ma belle-soeur, Jessica et Laurent. Maintenant, ils ont 6 ans. Tu vas en bouffer pendant quelques années, effectivement. Ouais.
Je confirme, hein, je confirme.
Non, toi, c'est des faits de deux.
Courage, Eric.
Prends soin de
Jean Bourac.
Ouais, Jean Bourac, ouais, du coup. Ouais. Victor Jean Bourac.
Victor Jean Bourac. J'ai essayé de l'amener au stade, quand même. Hein. Franchement, il n'y a que ça qui me fait tenir, quoi.
Quel branding.
Et l'autre, tu l'as appelé comment, l'autre jumeau?
Elle s'appelle Hortense.
Hortense? Ah ouais.
Ouais.
Bah, c'est mieux
ouais.
Bourac, ouais. Ouais.
Mais ça, c'est la fille, tu vois. C'est ma femme qui a choisi.
Oui, la fille, c'est pur.
Mais on va pas lui, tu vois. Moi, rapidement, ce que je veux, c'est des mèches décolorées, un piercing à l'oreille, tu vois. Moi, je prends ma canette de 8-6 sur le parking, lui, un Coca-Cola, et on va dire au
tu vois. En fait, on est sur un père bien complètement.
Ah, non,
t'es
con, je suis pas supporter l'ansois, mais non.
Mais oui. C'est vrai qu'Hortense.
Merci, Eric, d'avoir été avec nous.
Allez, Eric, à tous.
Bisous, prends soin des petits.
Bonne soirée.
Voilà, bisous Hortense et à Victor Jean Bourac. Et merci Djibo. Merci
Djibo. Salut.
Allez, dans quelques instants, on sera avec Clément Brossard. Coup d'envoi imminent de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort. Et puis, avis tranché de Walid Acharchour. Vous savez que Monaco a été éliminé hier au 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Et ben, on est trop gentil avec l'ASM. Va nous expliquer Walid. À tout de suite.